des livres plein les oreilles. Bonjour les amis, comment allez-vous? Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois l'émission, la seule émission d'ailleurs au Québec et certainement au Canada et que dis-je autour de la boule, qui ne se consacre qu'aux livres sonores. Aujourd'hui, autour de la table, je reçois Maryse Pesquin, c'est l'auteur qui en principe devrait savoir intéresser notre belle jeunesse à la lecture. Je reçois aussi Gérald Cousineau, maître S littérature. Quand il va entendre ça, il va bien rigoler. Je reçois aussi Faline Beaubier de Caeb qui va vous tenir au courant de quelques nouveautés sorties gratuitement pour vous. Et puis, je vais aussi m'entretenir par téléphone avec Guillaume Morissette. C'est également la première fois qu'il sera de l'émission. Guillaume Morissette, auteur de romans policiers primé par la critique, et un monsieur qui, en plus d'être musicien, conférencier, consultant, entrepreneur, enseignant, est l'un des auteurs, comme d'ailleurs Maryse Pesquin, du catalogue maintenant Livre Sonore de chez Vues et Voix. On commence en chanson parce que ça va nous amener un extrait de L'école des gars, écrit par Maryse Pesquin, ce qui nous amènera jusqu'à l'entrevue.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon, et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière, et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Rémi, un garçon hyperactif, ainsi que ses amis Guillaume, Patrick et Samuel, les jumeaux, Alexis, le dur à cuire, Justin, le timide, Augustin, Olivier, Juan, Thomas, Alexandro et les autres, ont tous quelque chose en commun. Ils n'aiment pas vraiment l'école. Pourtant, l'an passé, pour rien au monde, ils n'auraient accepté de rater une seule journée du calendrier scolaire. Normal, ils ont tous intégré l'école des gars. Une école tout à fait originale et amusante, où le plaisir d'apprendre rime avec réussir. Dirigée par un directeur sensible aux intérêts et au potentiel de chacun, les jeunes y ont découvert leurs forces et leurs talents. C'est maintenant au tour de Léonie, Gus et tous les nouveaux de découvrir cette école des plus innovatrices.
Bonjour Maryse Pesquins.
Bonjour.
C'est à vous que l'on doit les mots qu'on vient d'entendre là, tels qu'ils ont été lus pour Vues et Voix. Et c'est donc maintenant disponible en version commerciale ou gratuite au SQLA. Je vais rappeler tout de suite, tiens, le site, le lien internet, c'est livre sonore au singulier.com. Vues et Voix, non, bah oui, c'est ça, vuesetvoix.com, voilà, je vais finir par l'avoir un jour. Maryse Pesquins, je suis ravie de faire votre connaissance. Vous avez un nom un peu connu, un petit peu comme le mien ici, parce que papa ou maman... C'est papa qui, oui. était d'origine belge.
Exactement.
Maman,
oui.
Québécoise, mais oui. vous êtes née ici. Vous.
Oui, moi je suis née ici.
Vous êtes née ici.
Oui.
Et Maryse, je lisais, parce qu'évidemment, on va parler hein, de ces livres-là qui sont enregistrés, mais j'aime bien aussi savoir à qui j'ai affaire. Vous savez qu'ici, Canalem, on aime beaucoup s'interroger sur les avancées, sur les technologies, sur ce qui concerne le milieu des personnes handicapées. Et j'ai vu que vous aviez travaillé, vous, pour des personnes handicapées.
Ah oui, longtemps. En fait, mes premières expériences de travail, moi, ça se trouve être auprès des enfants handicapés. Donc,
j'ai été monitrice
dans des camps de vacances. Et par la suite, je me suis retrouvée à travailler à la résidence Papillon, donc à la Société pour les enfants handicapés du Québec, pendant plusieurs années. Donc, toutes mes années d'études, en fait, je travaillais les fins de semaine et le soir avec ces enfants-là comme animatrice, monitrice... Ensuite, j'ai travaillé à domicile aussi comme préposée aux bénéficiaires. J'ai travaillé à Rivière-du-Prairie aussi, à l'hôpital à Montréal. Donc, oui, j'ai fait ça longtemps.
Et vous avez une formation de sexologue.
Oui.
Vous avez animé un nombre incalculable d'ateliers, de conférences, beaucoup d'ailleurs dans le milieu communautaire.
Oui.
Comment cette femme-là devient à un moment donné Maryse Pesquins, l'auteur de livres jeunesse? Ça se fait comment?
Ben, en fait, c'est ça, j'ai travaillé comme sexologue dans différents milieux, mais principalement en détention, dans les établissements de détention. Et donc, j'ai vécu ma première grossesse dans les prisons, j'ai vécu ma deuxième grossesse dans les prisons aussi. Et quand je suis tombée enceinte de ma petite dernière, Eliane, je trouvais que c'était trop pour moi de continuer à me promener comme ça dans les prisons. Donc, j'ai décidé de prendre une petite pause, de me retirer du marché du travail pour prendre soin de mon petit bedon, mon petit bébé, qui est à côté de moi aujourd'hui, qui a 10 ans d'ailleurs. Et là, je m'ennuyais un petit peu. Et donc, j'ai commencé à écrire.
C'est comme ça que c'est né.
Oui.
Et alors, l'idée notamment de cette école de gars, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression... Parce que j'ai lu, encore une fois, que pour vous, bon, OK, une histoire à raconter, c'est important. Mais vous voulez... qu'il y ait sous-jacente à cette histoire-là des arguments un petit peu plus forts, un petit peu plus... Hein, vous voulez faire avancer quelque chose, notamment dans le domaine de l'éducation.
Ouais.
Vous trouvez que nos écoles ne sont pas appropriées?
Ben, en fait, l'idée du roman est née d'une situation très, très précise, en fait, que je raconte souvent quand je vais dans les écoles. Une petite anecdote, c'est que je me suis retrouvée dans la classe de mon garçon la journée de l'Halloween. On avait besoin de parents pour animer des activités. Uh-huh. Mon garçon qui était donc à la maternelle. Et que je me suis rendue dans sa classe et là, j'essayais d'être très dynamique, de vraiment capter l'intérêt des enfants, des garçons. Et je me percevais que les garçons ne m'écoutaient pas du tout. Ils n'étaient pas attentifs. Ils avaient plus envie de jouer et tout. Et moi, ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait de la peine de réaliser que c'est difficile pour les garçons, l'école. T'sais, j'ai l'impression qu'ils trouvent pas nécessairement ce dont ils ont besoin encore à 5 ans, 6 ans, qui est de bouger, de s'érailler, tout ça. Et donc, je suis revenue à la maison puis j'avais cette espèce de peine-là qui m'habitait. Ouais. Je me dis, mon garçon qui commence l'école, comment il va vivre ça, ce milieu-là qui parfois est très féminin. On retrouve beaucoup de femmes enseignantes. Je ne dis rien contre les enseignantes, pas du tout.
Non.
Mais je sens qu'effectivement, l'école n'est pas toujours adaptée aux garçons
qui
ont encore besoin de bouger. Ouais. Puis bon. Donc, j'ai voulu raconter une histoire où là, j'allais peut-être accrocher un peu plus les garçons. Puis en même temps, je voulais susciter un intérêt aussi pour la lecture chez les garçons, parce qu'on sait qu'ils lisent peut-être un peu moins. Donc, j'ai voulu raconter une histoire de petits garçons qui éprouvent des difficultés.
Et vous avez donc créé cette école qui, là, finalement, devient l'école dont tous les enfants rêvent, oui. Et ils n'ont
filles
pas...
Filles y compris.
Filles y compris. et personne n'a du mal à se lever le matin, tout le monde y va avec mm-hmm. Et même une fille, donc oui. Léonie, parce que oui. Ça c'est le troisième, je pense.
C'est le deuxième.
Ah, c'est le deuxième.
Parce que les enfants, quand j'ai commencé à aller dans les écoles, oui, c'est ça, les jeunes filles me disaient, pourquoi vous écrivez pas l'école des filles?
Oui.
Mais j'ai dit, je vais faire un compromis, parce que j'aimais trop mes garçons, et j'avais envie de continuer avec mes garçons, mais j'ai dit, tiens, on va intégrer une petite fille, parce que c'est une réalité qui rejoint aussi certaines
oui,
petites filles aussi.
Oui,
là. Donc, TDA, difficulté d'apprentissage, tu sais, une jeune fille qui éprouve toutes ces difficultés-là, ces défis-là. Donc, ouais, c'est ça.
C'est la petite Eliane, c'est ça?
Oui, ma petite dernière. Ouais, ouais.
Avance-toi un petit peu, ma petite puce. Tiens, tu peux nous dire bonjour. Je te jure que le micro ne va pas te manger. Alors, Eliane, comment tu l'écris, Eliane? Avec un Y ou avec un I?
I.
Avec un I. Eliane. Donc, E-L-I-A-N-E. C'est bien ça? Ah, j'avais une grande amie en France qui s'appelait Eliane. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu
ce prénom-là.
C'est
tellement un beau prénom.
Ouais. Donc, tu as quel âge?
10 ans.
10 ans. Est-ce que tu lis les livres à maman?
Ben, j'ai lu le deuxième et celui qu'elle a écrit, mais qui n'est pas encore sorti.
Non,
ah,
le,
okay.
cinquième. Que je viens d'écrire, qui n'est pas encore sorti.
Qui n'est pas encore sorti, toujours au sujet de cette école des gars.
Oui, par contre, là, un petit scoop quand même. Là, il y a des filles qui vont intégrer l'école des gars.
Qui vont intégrer l'école.
Donc, elle a lu le cinquième, mais tu peux raconter que tu as entendu ou écouté le deuxième, toi.
C'est vrai? Tu l'as écouté en livre audio, donc maintenant disponible. Comment tu as vécu cette expérience-là, Eliane?
Ben, on se sentait plus comme si on était dedans parce qu'on entendait les voix des personnes.
Ah.
On était comme, on pouvait vraiment imaginer beaucoup comment mm-hmm. c'était.
Est-ce que tu as l'impression, Eliane, que tu aurais toi-même de la facilité à écouter d'autres livres audio? Est-ce que ça t'a donné envie d'écouter des livres audio d'autres auteurs?
Oui.
C'est vrai? Lesquels, par exemple?
J'avais vu en arrière, ouais. D'autres livres, puis il y en avait que j'avais lu, que j'aurais aimé entendre en livre audio.
OK, ben tu vois, ben faut le faire. Faut pas se priver, ma cocotte, maintenant que c'est là.
Mm-hmm. Hein? Moi, j'ai été étonnée parce qu'on écoutait ça en voiture. Donc, le deuxième, on l'écoutait en uh-huh. voiture. Je me dis, bon, on peut pas se concentrer à la conduite et à l'écoute d'un uh-huh. livre, mais finalement, ça se fait tout seul. Très
c'est
agréable.
Incroyable.
Moi, j'ai découvert
oui.
ça, vraiment. Oui. Donc, même avec oui. mon propre livre, c'est encore plus touchant. Ou... Oui. C'est vraiment spécial d'écouter notre histoire en audio, oui. mais j'espère pouvoir en écouter d'autres
c'est
aussi.
C'est même la raison pour laquelle cette émission-là se bâtit sur le livre audio oui. en général, parce que je trouve que c'est pas juste pour les non-voyants.
Ah non,
tout le monde
tout.
Peut se faire du bien aux oreilles, comme
oui,
je le dis
parce
toujours
que la lecture,
en écoutant,
c'est pas
bien
facile
sûr.
Pour tout le monde non,
non
plus.
Non,
hein.
non,
donc,
non,
moi, mes
clair.
Enfants, ils n'ont pas cette facilité-là avec la lecture. Mm-hmm. Mais audio, je trouve ça intéressant parce qu'ils peuvent quand même travailler leur imagination.
Oui,
leur...
Oui.
Non, vraiment, j'adore le format.
Ça doit vous faire très plaisir, Marie oui. Pesquins, quand des gens vous disent que justement, ils vous ont lu ou écouté.
Oui.
Et que ça vous a... Et que, si ce sont des jeunes, surtout,
oui.
et que du coup, ils ont envie d'en découvrir d'autres.
Oui.
Si ce ne sont pas vos propres enfants, il y a les enfants des autres, ça doit tout vous toucher.
C'est très, très touchant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on écrit. Hein. C'est vraiment pour rejoindre le cœur des enfants. Puis quand je suis dans les salons. D'ailleurs, il y a des enseignants qui sont venus me voir, ou même des jeunes, des tout petits qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient entendu les histoires de ma petite école des gars, parce mm-hmm. qu'on a l'école des gars pour les plus petits maintenant.
Okay.
Et donc, vous avez eu déjà l'occasion de les écouter à l'école. Mm. Et ben oui, c'est
il y en a qui
touchant.
Vont vieillir avec chacun de vos tomes.
Exactement.
Parce que
ouais.
le premier a été écrit en 2011, hein, si
oui,
je ne m'abuse.
Oui, c'est ça, exactement.
Et là, donc, le dernier, le cinquième, va sortir bientôt.
Probablement en 2018 ou début 2019.
Il sera,
mais...
il sera forcément enregistré, je pense.
Oh,
et là,
j'espère,
comme ça, on aura toute la suite hein, pour nous.
Oui.
C'est un bonheur de vous recevoir avec vos deux filles. La grande est plus réservée. Elle disait, moi, je ne suis pas sûre de vouloir parler. Je veux accorder à cette émission-là aussi une large place pour la littérature pour les enfants. Parce que, comme je le disais justement d'ailleurs à vos filles, quand on était hors d'onde, c'est
oui.
que c'est tellement essentiel.
Ah,
on
ne
se rend
oui.
pas compte à quel point l'imaginaire se bâtit, se
tout.
Construit autour de la lecture.
Ah,
et,
oui.
Voilà.
Ah oui, puis ça permet de développer tellement d'autres compétences aussi. Puis moi, ben, je vous remercie. Je vous remercie
de rien,
d'avoir fait mes livres audio.
Maryse Pesquins, je voudrais appeler votre nom pour les gens qui nous écoutent. C'est P-E-Y-S-K-E-N-S. Et donc, vous êtes l'auteur de L'école des gars et des quatre tomes pour l'instant et du cinquième qui va arriver. Merci à vous, merci Eliane. La grande, elle s'appelle ?
Alexia.
Alexia, merci à vous trois.
Merci à vous.
Maman, ils ont encore fait d'autres lois. Jamais ils ne feront taire notre voix. Mon cœur n'est pas de ce monde-là. Ils me disent que mon peuple n'est pas de taille. Ils nous traitent comme un troupeau de bétail. Nos souffrances pour eux ne sont qu'un détail. Leur pitrerie ne m'intéresse pas. Leur vie n'est qu'un film de cinéma. Papa, je ne t'y vois pas. Je ne t'y vois pas. Tu es mon père, mon frère et mon roi. Je l'aime cette vie-là. Tant d'offenses et de lances sur mon sillage. Tant de traces et de marques sur mon visage. Tant de mensonges, de songes et de mirages. Vais-je te dire que je l'aime malgré tout ça? Malgré le vent qui balaye mon espoir. Oserais-je clamer à haute voix ta gloire? Ou vais-je fuir dans la peine comme un foussard? Aurais-je la force de dompter ma colère? Mon épée a tranché tant d'oreilles. Ma langue a causé tant de guerres, renié tant de gens que je connais. Mais je sais que ta main trace des lignes sur le sable pendant qu'on me lapide. Aucune pierre ne va me faucher. Je vais pas me taire, je vais poser. Tu se ferme pas, la paix que je veux se refuse à moi. L'eau, je la vois entre les arbres. Mais ton bras ne sera jamais trop court. Il m'éloignera de ses vautours. Tout seul, je ne pourrai pas m'en aller de cette terre, de ses alentours. Leurs promesses s'éteignent quand s'en va le jour. Papa, je veux te voir. Tu es mon père, mon frère et mon roi.
C'est un groupe, il s'appelle Les Guetteurs et le titre de la chanson, c'était « Mon frère ». Bonjour Gérald Cousineau.
Bonjour Clotilde Sailly.
Nous allons bien mon ami.
Pas mal,
oui, très bien aussi. Nous allons passer de mon frère à des frères d'âme dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui, cher Gérald.
Oui, parce que la dernière fois, à ce micro, je vous ai parlé du prix Goncourt, leurs enfants après eux. Ben, j'étais curieux de savoir ce que des plus jeunes, les lycéens, avaient choisi comme livre. Alors, le prix Goncourt des lycéens, en 2018, c'est justement « Frères d'âme », je dis bien « d'âme » et non pas «
d'armes », évidemment, oui.
D'un écrivain que je ne connaissais pas, David Diop. D-I-O-P. Ben, ce monsieur est né en 1966 à Paris, mais il a grandi au Sénégal, d'où la présence du Sénégal dans ce livre. Donc, qu'est-ce que c'est que Frères d'âme? Eh bien, nous sommes en France, oui, durant la guerre de 14-18, et là, un matin, alors que dans la tranchée du côté français, on s'apprête à foncer sur l'ennemi allemand. Eh bien, il y a dans ces soldats français qui vont justement se ruer à l'assaut de l'ennemi, des soldats sénégalais. On oublie, Clotilde, qu'il y a eu des soldats africains dans les rangs de l'armée française. Donc là, on a affaire plus particulièrement à deux tirailleurs sénégalais qui s'appellent Alphane Diaye et, Mademba Diop, voilà. Et à peine sorti de la tranchée, eh bien, Mademba Diop s'écroule, blessé à mort. Et ça, ça va rendre fou, littéralement, son ami, son plus que frère, Alpha Diaye, qui là, va se mettre à répandre la mort. Vous allez me dire, oui, mais la mort est omniprésente, c'est vrai. Mais lui, il va rajouter de l'horreur à ce qui est déjà de l'horreur. C'est-à-dire qu'il va non seulement décapiter les soldats allemands qu'il va tuer, mais il va voler leur fusil et couper la main qui tenait ce fusil-là. Et là, il ramène ça, bien sûr, dans la tranchée de l'armée française. Et à un moment donné, après 7 mains coupées, là, le capitaine trouve que c'est beaucoup. Alors, ils vont l'évacuer à l'arrière, et c'est là que ça devient encore plus beau, parce que, enfin, vraiment beau, parce que évacué à l'arrière de force par ses chefs, eh bien, Alpha Diaye va se souvenir de son passé, de son enfance, de ses amours, de sa famille, de son village sénégalais. Et là, on tombe vraiment dans la poésie. Avant, c'est une sorte de récit incantatoire, parce que c'est, je ne l'ai pas dit, mais c'est Alpha qui raconte l'histoire. Et là, il parsème son récit de « par la vérité de Dieu ». Il va dire aussi très souvent « mon ami, mon plus que frère », parce que justement, Mademba, c'était son plus que frère. Et ça, c'est la partie incantatoire. Et après, une fois qu'il est évacué à l'arrière, là, on passe, si vous voulez, à la partie plus poétique. Et c'est ce qui est le plus beau du récit, pour moi, c'est ça, quand il raconte le Sénégal de son enfance, comment il a découvert l'amour. Et d'ailleurs, ça nous vaut de très beaux passages, très belles descriptions de l'amour physique que je n'avais jamais lu ailleurs. Alors, comment il est devenu paysan, tout ça, comment il s'est formé, il y avait le physique d'un lutteur alors que son ami, Madame Paul, lui, était plutôt maigrichon. Alors, tout ça, c'est raconté au moment où Alpha doit se calmer à l'arrière du front. Donc, ça paraît un peu curieux, mais c'est, j'avoue, un très beau livre, très beau livre. Et la première partie est comme le contrepoint de la seconde. Autant la première partie est brutale, avec cet Alpha Diaye qui devient littéralement fou, qui perd la raison, autant la deuxième partie, là, on a l'impression que l'humanité reprend possession d'Alpha Diaye et redevient un être humain qui se rappelle avec nostalgie de son Sénégal. Il va se mettre à dessiner, etc.
Okay. Oui. Est-ce qu'on a l'impression, parce que très honnêtement, souvent j'arrive à lire un peu tous les livres dont on parle, mais je n'ai pas eu le temps ni le loisir de lire celui-ci. On dit souvent qu'en chaque individu, il peut y avoir un câble à un moment donné qui pète, comme on dit, si vous me permettez cette expression-là. Est-ce que c'est un petit peu ce que ça nous indique? Est-ce que ce type, finalement, s'il avait écrit le contraire, s'il avait commencé la seconde partie par la première, est-ce qu'on aurait pu s'imaginer une seconde de quoi il aurait été capable, même en perdant cet ami?
C'est curieux, effectivement, de se demander si ça avait été inversé.
Oui.
Est-ce qu'on aurait été plus surpris? Mais déjà, je dirais qu'on est surpris parce que ce qu'il fait, encore une fois, c'est assez horrible. Non seulement parce que la Première Guerre mondiale, on sait, ça a été une boucherie incroyable. Il y a eu des décisions des chefs militaires. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est une bêtise insondable. Combien de milliers de jeunes gens ont été sacrifiés à cause d'ordres vraiment ridicules. Eh bien là, ça, c'est une preuve patente. Et encore une fois, oui, effectivement, il pète les plombs, comme on dit, mais Mademba, c'était, encore une fois, et ça revient très souvent, c'était son plus que frère. Alors, on parle de l'amitié très forte à une démence incroyable.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le contrepoint, le contraste incroyable entre les deux Alpha Diaye, finalement.
Alors, Gérald, je suis allé, par contre, écouter ce qu'on nous proposait, parce que vous avez trouvé ce livre par la médiathèque.
Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. À la médiathèque, dans la bibliothèque de Valentin à Huy, parce qu'il n'est pas encore disponible ici, je pense.
Alors, il y a deux possibilités de l'écouter, soit la voix de synthèse, soit une voix humaine. Je suis allée écouter les deux. Malheureusement, je n'ai pas d'extrait de la voix de synthèse parce que l'extrait dure à peu près 10 ou 12 secondes. C'est vraiment ridicule. Par contre, je suis allée écouter la voix humaine et vraiment, ne faites pas le détour, évitez ça, c'est bourré de fautes, c'est mal lu,
effectivement,
c'est une catastrophe totale.
J'ai écouté une dame qui bafouille régulièrement.
Oh là 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 là, c'est...
Et c'est d'autant dommage que le livre est très beau.
Voilà.
Mais bon...
Alors, non, mais c'est pour ça que je voulais... Donc, ne vous gênez pas, prenez la voix de Manon, qui est une excellente voix de synthèse.
Voilà. En effet, Manon est une excellente voix de synthèse.
Du coup, j'ai pas d'extrait. Est-ce que j'ai une petite minute? Est-ce qu'il m'aurait une petite minute?
Oui.
Juste pour donner une petite idée que j'ai trouvée sur le site de Babelio, cet extrait-là. J'ai demandé à Madame Ba de me décrire l'ennemi d'en face qui l'avait étrippé. Il a les yeux bleus, m'a murmuré Madame Ba comme j'étais allongée à ses côtés, à regarder le ciel cisaillé de métal. J'ai insisté. Par la vérité de Dieu, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a les yeux bleus. J'ai insisté encore et encore. Est-il grand? Est-il petit? Est-il beau? Est-il laid? Et Madame Ba Diop m'a chaque fois répondu que ce n'était pas l'ennemi d'en face que je devais tuer, que c'était trop tard, que l'ennemi avait eu sa chance de survie. Celui qu'il fallait désormais que je retue, que j'achève, c'était lui, Madame Ba. Ouf. C'est
voilà.
Écrit, hein.
Ce n'était pas l'ennemi d'en face qu'il devait tuer, mais l'ami d'enfance.
Exactement.
Il ne voulait pas souffrir, il est là à souffrir bêtement sur le champ de bataille.
Voilà. Très, 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 très beau et très grand livre, Frère d'âme, de David Diop, D-I-O-P, qui nous était présenté par l'ami Gérald Cousineau. Merci beaucoup, Gérald.
Au plaisir.
J'ai envie qu'on, puisqu'on est dans la guerre, qu'on prenne peut-être un petit moment. Ben en fait, d'ailleurs, ce n'est pas un livre de guerre. C'est un livre, nous sommes au moment de grève monstrueuse qui paralyse des mois durant la Grande-Bretagne dans les années 78-79. Ça s'appelle « L'hiver du mécontentement » et j'en ai un extrait pour vous.
Elle aurait pu aussi bien ne jamais le connaître, Jones. Il est plutôt beau garçon. Il est grand, un peu trop pour se tenir toujours bien droit. Il a les yeux rieurs, à la fois rieurs et fatigués, à cause de toutes petites rides qui les soulignent et les prolongent. Les cheveux en bataille, parce que cela fait des années qu'il ne se coiffe plus. Il est musicien, pianiste de jazz. Ce n'est déjà plus tout à fait un métier en 1978. Alors, Jones est aussi employé de bureau.
Alors, qui est cette femme qui parle? Eh bien, c'est Candice qui va entre deux tournées à vélo dans les rues de Londres, qui va chercher à comprendre qui est Richard III et à chercher aussi le sens de sa conquête du pouvoir, qui va donc aller beaucoup au théâtre et qui croisera durant cette période de crise une certaine Margaret Thatcher, encore méconnue, venue prendre un cours de diction et déjà bien décidée à se hisser à la tête du pays. Voilà, c'est l'hiver du mécontentement de Thomas B. Reverdy, R-E-V-E-R-D-Y. C'est Clotilde Say, vous écoutez l'émission Des livres pleins les oreilles, vous êtes sur les ondes de Canal M. Des livres pleins les oreilles, la suite, toujours Clotilde Say en votre compagnie au micro de Canal M. Et en seconde partie, je vais faire la connaissance, nous allons faire connaissance avec Guillaume Morissette, auteur de Polar, mais pas que. Et puis Faline Bobier de Caeb va nous offrir quelques nouveautés disponibles gratuitement. Et je voudrais faire un clin d'œil à un homme qui nous a quittés durant les fêtes, un homme qui en a terrorisé plus d'un, je veux parler de Claude Gingras. Mais d'abord, bienvenue dans l'univers de Guillaume Morissette.
Thank you. appel au 911 entra à 2h23 du matin, précisément. C'est Claire qui assurait le quart de nuit à la centrale qui le reçut. Avec près de 14 années de métier à répondre à toutes les requêtes possibles, le bruit caractéristique de la sonnerie ne la faisait même plus sourciller. Elle laissa sa grille de mots croisés pour répondre. « 911, quelle est votre urgence ?» Quelqu'un haletait au bout de la ligne. « Je pense que je viens de tuer un gars. Il est rentré chez nous pendant qu'on dormait. Gardez votre calme, je vous en prie. Quelle est votre adresse, monsieur ?» L'homme respirait fort. Claire attendit qu'il reprenne son souffle. Elle entendait quelqu'un pleurer derrière lui. « 21-10, de Turenne. 21-10. Je vous envoie une patrouille immédiatement. » De son pied droit, Claire appuya sur la pédale qui lui permettait de communiquer avec les agents sur le territoire. De cette façon, elle pouvait assurer une réponse immédiate tout en maintenant la communication avec le citoyen. Ce dernier n'entendait pas ce qu'elle disait lorsqu'elle s'adressait aux policiers, alors elle pouvait mener simultanément les deux conversations. Invasion de domicile au 21-10 de Turenne. Je répète, invasion de domicile au 21-10 de Turenne. Ici la voiture 31-2, on est sur Jean 23. On va être là dans 3 minutes. Ici 17-3, on part du centre-ville. Êtes-vous blessé ? Demanda Claire à l'homme. Non, non, c'est correct. Ben, un peu, mais rien de grave. Mais le gars, il respire plus. Il est couché en bas de l'escalier. Une ambulance au 21-10 de Turenne. 21-10 de Turenne. Une équipe est en route et va arriver rapidement. Êtes-vous seul dans la maison ? Ambulance bien reçue. Départ de la zone 4. Non, ma femme est avec moi. Est-ce qu'elle est blessée ? Non, non, elle va bien. Très bien. Il y a d'autres gens dans la maison ? Non. Est-ce qu'il y a des armes à feu à portée de main ? Non plus. Votre nom ? Vincent Brassard. D'accord, monsieur Brassard. Êtes-vous à proximité de la victime ? Ben oui, oui, il est juste à côté. Si vous n'êtes pas en danger, j'aimerais que vous vous approchiez de lui et que vous me disiez s'il a un pouls au niveau du cou. Je... Fuck. Attendez.
Alors le pouls de cet homme battait-il encore ? Eh bien, pour le savoir, vous allez être obligé de lire le livre de M. Guillaume Morissette que j'accueille maintenant, un livre qui s'appelle « Deux coups de pied de trop » qui a été enregistré par les productions Vues et Voix et qui se retrouve donc sur notre livre sonore.vuesetvoix.com ainsi qu'au SQLA. Bonjour M. Morissette.
Bonjour Madame Clotilde.
Je suis ravie de vous accueillir à cette émission. Waouh, quel bagage, quelle feuille de route. On commence par quoi ?
Merci.
Je peux pas croire, 8 minutes, mais c'est pas possible d'abord. Non mais écoutez, c'est vrai. Bon, professeur est chargé de cours, notamment.
Ben, chargé de cours, en fait. Oui,
voilà, c'est ça, chargé de cours. Exact. Et vous avez déjà obtenu la plus haute distinction honorifique remise à un chargé de cours. Waouh, quelle distinction. Qu'est-ce que vous offrez de plus ? Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce que vous faites de plus avec vos élèves que vous ne faites pas ? Que font pas les autres, pardon ?
En fait, c'est le seul prix de l'université dont les critères de sélection proviennent directement des évaluations des étudiants. Alors, au lieu d'être un patron qui va dire à son employé « Bon, félicitations, voici un trophée », là, c'est les étudiants qui, à chaque session, vont mettre des commentaires, ils vont parler de leur prof, et puis ils vont donner les trucs à améliorer, les trucs qu'ils ont aimés, et tout ça est compilé. Et puis, à chaque année, ben, l'université récompense un professeur et un chargé de cours suite à ces évaluations-là, pour l'ensemble de sa carrière. En fait, c'est des évaluations qui peuvent provenir de plusieurs années auparavant. Et en 2013, j'ai été chanceux, j'ai eu le prix pour les chargés de cours.
Monsieur Morissette, Guillaume, si je n'avais point lu sur le prochain sujet de ma prochaine question, je ne vous l'aurais peut-être point posé. Mais là, il est écrit partout que vous êtes un polymathe. Alors d'abord, rappelez-nous ce qu'est un polymathe.
Et un polymathe, c'est quelqu'un qui... Mais ça vient de polymathisme, en fait, de plusieurs matières, plusieurs sujets. C'est quelqu'un qui s'intéresse à plusieurs sujets sans sans égard à l'art ou la science, ou c'est quelqu'un qui aime avoir plusieurs carrières, plusieurs champs d'intérêt dans lesquels il voudrait devenir expert, et puis qui ne se limite pas en fait à un seul champ d'intérêt. La muse des polymathes serait un Léonard de Vinci, par exemple, qui est un peintre, qui est un scientifique, un homme de science. Évidemment, c'est...
Ce ne sont pas des deux de pique, de façon générale. Je pense que... Comment on vous appelle ici? Il y a un petit côté bolé là-dedans, non? Est-ce que ça vous dérange quand on vous dit ça?
Non, plus maintenant.
Plus maintenant.
3 ans, ça me dérange plus.
Ça vous dérange plus.
Jeune, ça dérangeait peut-être un peu, mais moi, je trouve que c'est un côté curieux. Bon. Un côté curieux.
Alors,
voilà.
Alors qu'est-ce qu'un polymathe chargé de cours exceptionnels que les étudiants adorent? Qu'est-ce que ce polymathe vient faire dans la littérature policière et qu'est-ce que cette littérature... Oh là, je fais un Christian Bégin de moi-même en deux volets.
Oui.
Et qu'est-ce que cette littérature, en quoi est-elle différente? Guillaume Morissette.
Un prof, ça raconte des histoires.
Ouais.
C'est un vecteur, c'est un intermédiaire. Et un écrivain, ça raconte des histoires.
Ouais.
Alors déjà là, on est tous les deux, le prof en moi et l'écrivain en moi racontent des histoires. Le but de l'écrivain, c'est de raconter des histoires pour faire passer un moment de plaisir, alors que le prof, c'est pour enseigner quelque chose, faire transmettre une matière. Mais dans les deux cas, j'utilise beaucoup mon imaginaire, énormément. Quand j'enseigne, j'invente plein de façons d'essayer de rentrer dans la tête des gens pour leur faire comprendre certains trucs.
Oui.
Mais je trouve que de l'écriture, c'est un peu la même chose. Quand j'écris un roman, je vois une scène, là, j'essaie de la faire comprendre à mon lecteur. Voici comment ça s'est passé. Voici, j'ai ma façon à moi d'imaginer les choses. Et je crois que ça se retrouve dans mes cours aussi, je pense, à l'université.
Bon, qui est l'inspecteur Héroux? Qu'est-ce qui le distingue des autres?
Bon, à la base, je suis un grand amateur de romans policiers, de polars et tout.
Mm-hmm.
Et j'en avais soupé complètement des stéréotypes d'enquêteurs.
Ah.
55 ans, divorcé 2 fois, incapable de se trouver une conjointe ou un conjoint.
À moitié alcoolo, traînant.
Voilà.
Bordélique, enfin bon, tout ce qu'on veut.
2 pieds dans la retraite depuis 10 ans, mais qui va terminer à 75 ans à faire encore des enquêtes. Bon. J'en avais un peu soupé de tout ça. Et puis, et moi, pour avoir côtoyé des policiers, des enquêteurs dans ma vie, je voulais un type sympathique. À la limite, un peu naïf, à la limite.
Mm-hmm.
Sympathique, quelqu'un qui croit en la justice encore, qui n'a pas été entaché par le système. Héroux, c'est un chic type. Il est sympathique, il croit en la réadaptation, à la réintégration sociale. Il a le goût de faire confiance. Selon lui, le jour où il arrête de faire confiance, il n'y a plus de raison de faire son travail.
Ouais.
Alors, c'est un chic type à la base. Alors, c'est sûr que ça le rend vulnérable à certains trucs, évidemment. Il peut s'en faire passer des vitres, plus que d'autres. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un de très humain. C'est vraiment un type qui n'a pas de faille majeure dans sa personnalité, dans son schéma mental. Il est bien.
Il n'est pas du genre à aimer l'opéra et quand il rentre à écouter Verdi en boucle. Ou...
Non, pas du tout. C'est plus le genre qui va s'ouvrir un jeu de société avec sa conjointe et ils vont jouer à des questions-réponses et une petite partie du Scrabble.
Alors, je vois. Je vois, oui, ce qui n'est pas votre truc d'ailleurs. Vous ne perdez pas de temps tellement pour la télévision. Hein. J'avais déjà vu ça.
Non,
ce n'est pas votre truc du tout. Alors, je vois qu'au SQLA, en version gratuite, nous avons l'affaire Mélodie Cormier. Nous avons des fleurs pour ta première fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a également Terreur domestique. Tout ça, ce sont des enquêtes de l'inspecteur Héroux?
Oui, absolument. Avec 2 coups de pied de trop, dont on a entendu un extrait.
Voilà. Lui, on le retrouve aussi en version commerciale. Vous avez une voix assez extraordinaire. Vous savez, je suis très, très sensible à la voix parlée. Non, mais c'est important aussi quand on est professeur. Et vous auriez pu vous-même enregistrer ça aussi? Ça vous tentait pas?
Quoi? Mais j'aurais adoré.
Vous auriez adoré ça, hein?
J'aurais adoré, mais je ne l'ai jamais fait. Alors, j'imagine que j'aurais une bonne courbe d'apprentissage là, pour... J'ai jamais été acteur non plus. J'ai fait des petits caméos dans des trucs.
Oui, mais ça, on pourra vous aider, nous. Parce que je trouve qu'avec la voix que vous avez, Guillaume, ce serait tellement intéressant que vous veniez à un moment donné pour enregistrer. Vous, mais ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que Jacques Tremblay, qui est celui qu'on a entendu, est un lecteur absolument remarquable et qui a aussi, d'ailleurs, une très belle voix. Donc, vous êtes tombé. Vous êtes vraiment tombé sur la crème de la crème. Il n'y a aucun problème. Mais je vous entends parler, Guillaume, puis je me dis, ce serait une autre corde à votre arc. Et doué comme vous êtes, j'ai failli dire surdoué, je suis sûr que ça va être très bien.
Mais ça me ferait grand plaisir, Madame Clotilde, croyez-moi. C'est d'ailleurs quelque chose auquel j'avais pensé. C'est très bien d'entendre ses propres livres,
oui, hein?
Lus par quelqu'un.
Ça vous a fait quoi?
Ben, écoutez, premièrement, avec le thème de la panthère rose en arrière, déjà, je me sentais comme Arthur Conan Doyle qui était revenu à la vie 100 ans plus tard, qui écoutait Sherlock Holmes. C'est vraiment bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, je suis un type qui lit très rapidement. Quand je lis, je lis vite. J'absorbe les mots rapidement. Et lorsque je l'entends, je dois aller à la vitesse du lecteur. Et c'est surprenant comment c'est, on dirait, encore plus dense.
Ah oui, hein?
Lorsque c'est comme M. Tremblay le fait. Mmh. Moi, je vois une grosse différence.
Mais Guillaume, je vais vous rassurer ou vous informer en tout cas. Vous savez que les personnes non-voyantes là, qui nous écoutent et qui écoutent des livres audio, la plupart du temps, accélèrent. Ah oui? Oui, absolument. Parce qu'ils ont l'habitude d'écouter beaucoup plus rapidement les choses et souvent, ils n'hésitent pas à accélérer. On le sait, nous. Alors, donc, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui n'arrivent pas à parler vite, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ils vont accélérer le débit. Oh! Guillaume Morissette.
Hey, mais c'est extraordinaire. Quel outil extraordinaire.
Écoutez, honnêtement, j'aurais aimé, quand j'étais étudiante, je pense avoir un bonhomme, un professeur comme vous. gardez votre bonne humeur, votre humanité, on adore ça. Et je dis à mes auditeurs, allez lire du Guillaume Morissette, découvrez l'inspecteur Héroux, tellement différent de tout ce que vous connaissez ailleurs. Merci beaucoup, Guillaume Morissette.
Ben, merci à vous et j'attends votre appel quand vous voulez pour qu'on enregistre quelque chose.
D'accord!
Salut bien!
Salut!
Merci, bye!
C'était pendant les fêtes, c'est passé, ça a failli passer inaperçu, mais quand même, ça ne pouvait pas passer inaperçu, la mort de Claude Gingras, le célèbre et terrorisant critique musical Claude Gingras. Yannick Nézet-Séguin, d'ailleurs au début, vous avez ce directeur artistique, un chef principal de l'orchestre métropolitain, il n'était pas tellement apprécié par Gingras. Oh non, il y a goûté aussi. À un moment donné, il l'avait traité de petit cochon, physiquement, parce que, bah oui, mais c'était ça Gingras. Et il lui arrivait, bon, c'était un type qui était à la fois honni, banni, de pas mal de sociétés, mais en même temps très respecté parce qu'effectivement il savait parler de musique, même s'il était un petit peu dur parfois. Il utilisait, nous rappelle un journaliste de La Presse dont je vais retrouver le nom dans quelques instants, c'est André Duchesne et Jean-Thomas Léveillé qui ont signé ce papier-là sorti le 31 décembre. Et il avait, c'est ça, il était à la fois haï et respecté. Il usait d'un style limpide, vif, précis, parfois sec et tranchant, un style que d'aucuns d'ailleurs qualifiaient plutôt d'assassin. D'ailleurs, Claude Gingras écrivait à propos de son côté abrasif « J'avais un côté vache, j'aimais dire les choses qui surprenaient les gens, qui les déstabilisaient. » J'ai sous la main, vous savez, il existe maintenant, en tout cas à Montréal, et je suis sûre dans beaucoup de villes au Québec, des petites boîtes où les gens abandonnent des livres. Eh bien, croyez-le ou pas, mais ce matin, j'ai trouvé Audition, Claude Gingras Audition. Ça s'appelle « J'ai rencontré les plus grands » et il nous fait part de toutes ses rencontres avec Aznavour, avec Juliette Gréco, avec Jerry Lewis. Et il y en avait là-dedans qu'il appréciait pas trop, où il était mitigé. Par exemple, Alain Lefebvre, à un moment donné, Alain Lefebvre lui dit dans une entrevue, « Je ne suis pas capable de penser que je joue bien. Ce n'est pas de la fausse modestie. Après un concert, je cherche un piano pour retravailler. » Et Jean Gras, il lui dit, « Alors, les critiques ne sont pas si sévères. » Non, il n'était vraiment pas facile, le bonhomme. Au sujet de cette femme que j'aime tant, Jesse Norman, il pense pas la même chose que moi. Il semblerait qu'à un moment donné, Jesse Norman a donné une conférence de presse et qu'il écrit, Monsieur Gingras, elle se moquait visiblement de nous. Eh bien, qu'elle sache bien que le sentiment est réciproque, en parlant des journalistes qui étaient en face d'elle. J'essaie encore de lui poser une question. Quand sortira son enregistrement de Parsifal ? Elle répond, je n'ai absolument rien à voir avec les dates de sortie de mes disques, j'ai assez de les faire. Y a-t-il des chanteurs qui l'ont influencé ? Jesse Norman répond, tous les chanteurs qui sont venus avant Jesse Norman et tous les chanteurs actuels. On se retient de rire. Le représentant de sa maison de disques demande, bon, y a-t-il d'autres questions ? Je réponds le plus indifféremment du monde, mais il n'y a pas de réponse. Alors, si vous voulez lire du Claude Gingras, ces livres, ces deux livres qui s'appellent Audition et un autre livre qui s'appelle 60 ans, Notes 60 ans de vie musicale sont à découvrir. Je vous propose un extrait qu'on va entendre ensemble. Il sera question d'André Gagnon que Claude Gingras avait rencontré à un moment donné bien précis. Et ça va nous donner l'occasion de réécouter du Mozart, extrait du Köchel 482, qui est en fait le concerto pour piano numéro 22. On écoute ça ensemble.
Début des années 80, les premières du règne du toit. Le nouveau chef de l'OSM continue de se familiariser avec son nouvel habitat et me consulte parfois. Il me demande un jour, je cite en substance et non textuellement, c'est loin, 30 ans. André Gagnon, c'est qui? Devrais-je penser à lui pour un concerto de Mozart? On me dit qu'il en a déjà joué, et fort bien. Ma réponse est à peu près celle-ci. Oui, c'était plus que bien, et puis c'est un gros nom. Voici donc André Gagnon engagé pour jouer Mozart avec l'OSM. Je le croise dans la rue. Il me parle de l'invitation de Dutoit et me dit qu'ils se sont entendus sur le concerto K-466, celui qui contient la très belle romance centrale. Je me permets de lui recommander plutôt le K-482, qu'il ne semble pas connaître. Le concert sera donné trois fois, les 3, 4 et 8 mai 1983. Je parle interviewé pour cet événement qui est son entrée à l'OSM. La rencontre a lieu dans l'ancienne maison d'Émile Néligan qu'il occupait avenue Laval. Il me confie. André Gagnon qui joue du André Gagnon, ça va bien, parce qu'André Gagnon a tendance à bien s'entendre avec André Gagnon. Mais pour jouer un concerto de Mozart, cela me demande beaucoup de courage. Ce serait bien plus facile de continuer à faire ce que je fais. Au lendemain du premier concert, j'avais titré « André Gagnon, plus qu'honorable ». Quelques passages de ma critique. Je m'attendais à beaucoup moins bien.
«
Voilà pour Monsieur Claude Gingrin. Je vous rappelle que les livres sont tous disponibles gratuitement via le Service québécois du livre adapté. Bonjour Madame Beaubier-Falline, comment allez-vous?
Ah, très bien, et vous?
Oui, bien aussi, je vous remercie. Merci aussi d'avoir accepté de revenir nous voir aujourd'hui pour nous parler de deux livres, je crois.
Oui, ou peut-être si je n'ai pas le temps, seulement un livre,
d'accord.
Mais on verra.
D'accord, Falline, il n'y a aucun problème.
OK, très bien. Alors, chaque mois au CAEB, on affiche au site web les 5 livres les plus populaires auprès de nos lecteurs au cours du dernier mois. Donc, j'ai choisi 2 titres parmi les 5 les plus populaires du mois dernier à souligner aujourd'hui. Comme j'ai dit, si on n'arrive pas à parler du deuxième, on peut toujours le faire à une autre émission.
Il n'y a aucun problème, Falline, ne vous inquiétez pas.
Très bien. Alors, le premier livre, donc, c'est un roman historique par une auteure québécoise, Claire Bergeron.
Oui.
Donc, elle nous présente Les enfants de Putainville, dans lequel elle nous révèle une page intrigante, je pense, de l'histoire québécoise.
Mm-hmm.
Donc, le livre est inspiré par la vraie histoire de Roquedor, village à la réputation un peu douteuse. Donc, Bergeron fait revivre l'âge d'or de l'exploitation minière des années 30 et 40 en plein cœur de l'Abitibi.
Okay.
Donc, petit résumé de l'histoire. Personnage principal du roman, Hélène, est remariée à Octave, un médecin. Donc, elle se croit promise à une existence paisible avec son nouveau mari, mais elle déchante quand elle s'aperçoit à son arrivée à Roquedor que son mari est le propriétaire d'un hôtel où l'alcool coule à flot et la prostitution est érigée en véritable système. Donc, en 1937, la découverte de gisements d'or attire de nombreux aventuriers au cœur du clan Dyke abitibien, si on peut dire. La vie s'organise difficilement dans ce village de squatteurs sans église, sans école et sans force de l'ordre. Donc, Hélène est inquiète et elle cherche à protéger ses enfants, Michel et Amélis. Mais les bouleversements s'enchaînent jusqu'au jour où elle disparaît mystérieusement. Donc, c'est ça un peu la mise en scène du roman.
Donc, c'est policier, historique, historico-policier. Voilà,
je
vais l'avoir dans le bon ordre. Oui.
Et aussi, ça démontre, je pense, une période historique dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire l'exploitation minière.
Oui.
Et en fait, en réalité, il y a un décret gouvernemental datant de 1943 qui signa vraiment l'arrêt de mort de Roquedor, surnommé Putainville, parce qu'ensuite, on a vraiment démantelé le village.
Donc, il n'existe plus du tout, là. Il n'y a plus rien qui existe.
Il y a une maison qui se trouvait un peu à l'extérieur du village. Mais à part ça, il n'y a rien.
Et quand on dit les enfants de Putainville, ça veut dire qu'il y a eu des enfants illégitimes qui sont nés de ces nuits olé olé dans cette maison close ou?
Je pense que les enfants, dans le titre, ça fait référence aux enfants spécifiques du personnage principal,
d'accord,
de Hélène, Michel et Amélis. Parce que après la disparition de leur mère, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé.
Mm-hmm.
Pourquoi est-ce qu'elle est disparue comme ça?
D'accord. Alors, regardez, vous nous l'aviez proposé, Falline, et je vais l'accepter. Vous allez garder le Michael Connelly pour une autre fois, parce que là, sinon, le temps va nous manquer. Est-ce que c'est correct pour vous?
Oh oui, c'est très bien. je pense que je peux voir pourquoi ce livre-là, Les enfants du Putainville, est très populaire avec nos lecteurs.
Ah oui, hein?
J'ai trouvé très intéressant.
Je n'en doute pas. Et vous êtes déjà la deuxième ou troisième personne qui me donnait l'envie de lire ce bouquin, d'ailleurs, que j'ai à la maison. Il fait partie de ma tour de Pise, là, qui penche de plus en plus sur ma table de nuit.
Ça m'a donné envie de lire plus de livres de Claire Bergeron.
Oui, c'est une bonne idée.
Oui.
Falline, on se retrouve dans 2 semaines à l'émission?
Très bien.
Alors, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne lecture. À bientôt.
Merci, Clotilde. Bonne journée.
Alors, je remercie une nouvelle fois Faline Beaubier, toujours fidèle à cette émission, comme d'ailleurs Gérald de Cousineau, maître S littérature, Maryse Pesquins, qui était également notre invitée, et Guillaume Morissette. C'était Clotilde Seille. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Merci à vous d'être là. Bonne semaine. Salut.